CQFD.
Ce sont les soldes dans la chronique d'actualité d'aujourd'hui. En effet, Sylvio Dolzan, vous nous offrez plusieurs sujets pour le prix d'un.
Alors oui, parce que il y a plusieurs résultats de recherche assez intéressants qui ont été rendus publics ces derniers jours. Donc, pourquoi se priver, en fait? Mais avant d'en venir vraiment à l'actualité que j'ai trouvée dans les revues, d'abord, ce petit rappel, hein, l'Office fédéral de la santé publique a annoncé hier une assez forte recrudescence des cas de coqueluche en Suisse l'an dernier. Donc, du coup, l'Office recommande de profiter de la vaccination combinée diphtérie-tétanos qu'on administre aux ados entre 11 et 15 ans, pour les vacciner aussi contre la coqueluche. En effet, l'augmentation de ces cas touche particulièrement les jeunes adultes. Et l'OFSP préconise également la vaccination des femmes enceintes, dont le dernier rappel remonte à plus de 5 ans.
Alors, plusieurs résultats de recherche, vous nous l'annonciez. Et une première recherche, tout d'abord, qui s'est intéressée à notre sueur.
Oui, on connaissait son importance, la sueur, pour la régulation thermique de notre corps, notamment. Mais là, une équipe internationale coordonnée par l'Université d'Édimbourg s'est intéressée à un aspect assez particulier, les capacités antibiotiques de la sueur. Elle publie les résultats de son étude dans PNAS, donc les actes de l'Académie des sciences américaines. Alors, lorsque nous transpirons, la sueur diffuse de la dermicidine, un antibiotique naturel qui nous aide à désinfecter les petites plaies. On connaissait la dermicidine et bien d'autres antibiotiques naturels, mais sans savoir vraiment comment ils fonctionnaient et comment ils étaient faits. Et c'est ce qu'a découvert l'équipe écossaise, justement, en fait, pour résumer. La dermicidine s'attaque à la membrane cellulaire des bactéries dans laquelle elle creuse de minuscules canaux. Et ces sortes de tunnels restent ouverts, sont étayés, si vous voulez, grâce au zinc qui est présent dans la sueur. Résultat, les microbes sont dans l'incapacité de développer rapidement une résistance, et donc il meurt. Et de plus, ces antibiotiques sont capables de s'adapter à de nombreuses sortes de membranes cellulaires, de sorte que ce sont des antibiotiques à très large spectre, capables de repousser des bactéries, mais aussi par exemple des champignons.
Et ça, qu'est-ce que ça laisse présager d'avoir découvert ça?
Eh bien, les chercheurs estiment que ces antibiotiques sont capables de lutter, par exemple, contre la tuberculose, contre les staphylocoques dorés, dont on sait qu'ils sont une véritable plaie au milieu hospitalier. Et comme ces scientifiques ont réussi à décrire la structure atomique de la chaîne moléculaire de la dermicidine, bah, ils espèrent que ça permettra de développer de nouveaux antibiotiques de synthèse qui imitent la dermicidine et ses cousins, des antibiotiques potentiellement bien plus efficaces que les actuels.
On reste dans la santé avec une étude de l'Université de Montréal, une étude qui nous dit que gérer son stress permettrait de mieux lutter contre des douleurs chroniques.
Et un accident, une maladie, une opération chirurgicale, ces événements sont parfois, même souvent, suivis de l'arrivée d'une douleur chronique. Les lombalgies, par exemple, sont parmi les plus communes, ces douleurs. Alors, ces douleurs chroniques provoquent du stress, ne serait-ce que parce qu'on a peur d'avoir mal, tout bêtement. Et ce stress active la sécrétion par les glandes surrénales d'une hormone qu'on appelle le cortisol, une hormone nécessaire au métabolisme, mais qui, en trop grande quantité, est un peu nuisible quand même, provoque des troubles du sommeil, de l'humeur. Donc, du stress supplémentaire, et donc, c'est le cercle vicieux. Alors, pour les chercheurs canadiens, les personnes susceptibles de développer une douleur chronique devraient donc, en complément du traitement médical, travailler sur leur gestion du stress, leur peur de la douleur avec l'aide d'un psychologue et ou par des moyens comme la relaxation par exemple.
Une question pour suivre, est-ce que l'évolution a doté le cerveau des humains de structures qui nous seraient propres, qui nous seraient vraiment, qui seraient uniques au genre humain?
Alors cette question, elle taraude les scientifiques depuis qu'on sait que nos ancêtres se sont différenciés des ancêtres de certains singes actuels il y a environ 25 millions d'années et que depuis, eh bien il y a des zones cervicales qui sont venues s'ajouter, d'autres qui ont disparu, d'autres qui ont changé de fonction. Alors la réponse, ça paraît évident, oui. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on n'en avait pas encore trouvé de preuve physiologique, vraiment. Et une première preuve vient d'être découverte par des chercheurs de l'Université belge de Louvain, dont l'étude paraît dans le Journal of Neuroscience. Et pour la trouver, cette preuve, les chercheurs ont comparé les cerveaux de l'humain et du singe rhésus. Alors, à l'état de repos et lorsque le cobaye regarde un film. Alors, à l'état de repos, certaines parties du cerveau restent très actives, on le sait, elles travaillent en réseau. Et dans cette situation de repos, eh bien, les réseaux chez l'homme et chez le singe sont extrêmement similaires. Il en va, par contre, tout autrement lorsque les cerveaux reçoivent les informations visuelles et sonores d'un film. Là, le fonctionnement des cerveaux de l'homme et du singe se révèle totalement différent. En fait, l'expérience a prouvé qu'il y a des structures physiologiques qui sont effectivement uniques à l'homme. Ces structures sont non seulement anatomiquement absentes chez le singe, donc elles n'existent pas, mais en plus chez le singe, il n'y a aucune structure qui remplit la même fonction que ces structures humaines.
C'est assez rassurant. Hein. Voilà. Bon, quand il y a quand même quelques différences avec les singes. Et donc...
Donc c'est QFD. Hein. Donc on a au moins une structure physiologique unique dans notre cerveau, une qui n'existe pas et dont la fonction n'existe pas chez les primates les plus proches de nous.
On quitte les sciences de la vie pour les sciences de la Terre.
Oui, grâce à une étude qui vient de paraître dans Nature Geosciences et qui émane du Centre allemand des géosciences basé à Potsdam. Et cette étude, elle nous dit qu'un nouveau continent vient d'être découvert.
Un nouveau continent.
Et oui, un nouveau continent.
Plastique.
Non.
Ouais, en solution, on le connaissait déjà,
malheureusement. Un nouveau continent, mais tout petit. Hein. En fait, ce continent, il supporte les îles de la Réunion et de Maurice.
Et qu'est-ce qui nous dit que c'est un continent ?
Alors, il était une fois, il y a 170 millions d'années, il était une fois Gondwana, donc un super continent qui a commencé à se fragmenter à cause des forces tectoniques. Et un gros morceau de Gondwana s'est lui-même fragmenté en Madagascar, Inde, Australie et Antarctique. Ces morceaux ont petit à petit dérivé jusqu'à occuper leur position actuelle. Et le long des lignes de séparation, eh bien des micro-continents, des toutes petites pièces du puzzle ont subsisté tout seuls, hein, accrochés ni à l'un ni à l'autre des plus gros morceaux. Par exemple, les Seychelles, c'est un de ces micro-continents.
Ah, d'accord.
Et on apprend donc aujourd'hui que la Réunion est aussi un reste de continent à elle toute seule, alors qu'on pensait que c'était une île uniquement formée du magma, des volcans qui jaillissent des entrailles de la Terre, un peu comme l'Islande par exemple, si vous voulez, ou la plupart des autres îles volcaniques d'ailleurs.
Et comment les chercheurs ont-ils fait justement pour le déterminer ?
Alors ils se sont baissés pour ramasser des cailloux, en l'occurrence des grains de sable. Hein. Ouais. Et dans ces grains de sable, ils ont trouvé des zircons, donc c'est une pierre semi-précieuse, hein, dont l'âge se situe entre 660 millions et presque 2 milliards d'années. Et ça, c'est la preuve que lorsque ça montait vers la surface, hein, pour arriver au volcan réunionnais, par exemple, la lave, eh bien, traverse une très vieille croûte continentale. Si on n'avait pas vu jusqu'ici, c'est que justement la lave a fini par la recouvrir entièrement, mais elle existe, elle est bien cachée, donc la Réunion est un continent CQFD de roche.
C'est encore dans le passé de la Terre que d'autres scientifiques cherchent à prévoir son avenir.
Ouais, des scientifiques du centre Bjerknes, à Bergen en Norvège. Bjerknes, vous connaissez, non ? C'est le nom d'une, en fait, une lignée de météorologistes et de climatologues. En fait, ce sont les premiers, en fait, qui ont toutes les dépressions, etc. C'était Gustave, je crois, il s'appelait le grand-père, qui a expliqué tout ça. C'était au début du 20e. Ils sont trois, un peu comme les Picards, hein, ouais. Grand-père, père et fils. Donc, c'est donc de climat qu'il est question dans cette étude qui est parue dans Nature. Alors, il est généralement admis que le changement climatique va certainement modifier la circulation des courants océaniques, hein, qu'ils soient grands ou petits, ces courants. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement comment. Certains disent par exemple que le cours du Gulf Stream pourrait se diriger beaucoup plus au sud lorsqu'il traverse l'Atlantique, et que du coup, le climat général de l'Europe du Nord pourrait non pas se réchauffer, mais se refroidir. Mais franchement, on n'en sait absolument rien avec assurance. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Norvégiens ? Ils sont tournés vers le passé, vers une période qui s'appelle le Pliocène médian, enfin, il y a environ 3 millions d'années. C'était une période chaude qui est souvent considérée comme une très bonne image de ce qui pourrait se passer dans un futur relativement proche, à l'échelle de 200-300 ans ici. À ce moment-là, donc au Pliocène médian, les eaux de surface de l'Atlantique Nord étaient particulièrement chaudes. Alors on pensait que c'était dû à une intensification de la circulation marine, hein, qui ramène les eaux chaudes vers le pôle Nord. Donc pardon, j'ai tapé le micro, excusez-moi, parce que je parle avec les mains.
Oui, comme c'est ça, on a compris.
Mais en fait, bon, cette intensification jouait pas avec les modèles qui expliquent le comportement d'un océan plus chaud. Donc, les scientifiques de Bergen ont utilisé une nouvelle méthode de calcul qui semble en fait démontrer que les grands changements de circulation ont eu lieu et auront lieu peut-être dans l'océan austral, près de l'Antarctique et en profondeur, et donc il n'y aurait pas de changement dans l'Atlantique Nord.
Mais alors, est-ce qu'ils expliquent pourquoi la température de surface y a considérablement augmenté ?
Selon eux, il faut rester prudent. L'augmentation de température était simplement due à un ensoleillement plus fort et un taux plus élevé de CO2 dans l'atmosphère. L'explication a le mérite de la simplicité, elle n'est certainement pas définitive. Et en plus, elle est assez pessimiste parce qu'elle laisse entendre qu'un nouveau réchauffement de l'Atlantique Nord devient maintenant inéluctable avec tous les changements qu'il implique dans la biodiversité. Par exemple, il y a beaucoup d'espèces de poissons qu'on pêche actuellement dans ces eaux qui ne survivraient tout simplement pas à une élévation de 2 ou 3 degrés de la température de l'eau.
On va terminer en quittant carrément la Terre parce qu'un nouveau télescope spatial a été lancé hier par les Canadiens.
Par l'Université de Toronto, il va observer les étoiles, analyser leurs changements de brillance. Bof, vous allez dire, bof, encore un télescope spatial de plus.
Encore un télescope spatial.
Oui, sauf que le plus connu de ces télescopes, un Hubble, c'est un tube de 13 mètres de long sur 2,40 mètres de diamètre et d'un poids de 11 tonnes. Et le télescope qui a été lancé hier après-midi, le Canadien, il tient dans une boîte de 20 cm sur 20 pour un poids de 7 kg. Et oui, l'ère du télescope spatial low cost a débuté, Stéphane.
Il les peigne en orange, vous croyez ?
Je crois pas.
Très bien. Plutôt chronique. Merci beaucoup. Signé Silvio Delzan.
CQFD sur la première.